Chapitre 74. Avant même de s'insinuer à l'intérieur de l'épave du sous-marin, Harman avait une bonne idée de sa nature exacte. Les paquets de données archivés dans son organisme contenaient des milliers de références relatives à des milliers de vaisseaux de toutes sortes et couvrant 10 000 ans d'histoire de l'humanité. Certes, la proue défoncée, les débris qui l'entouraient et la couche de furtivité fissurée de toutes parts qui recouvrait la coque en acier à mémoire de forme ne lui suffisaient pas pour identifier ce bâtiment avec une certitude absolue, mais il s'agissait vraisemblablement d'un lanceur d'engins datant de la fin de l'ère perdue, postérieur à l'épidémie du Rubicon mais antérieur à l'avènement des premiers post-humains. Les années de démence. Lorsqu'il s'engagea dans une coursive légèrement pentue, respirant à travers son masque osmotique, bien qu'il n'eût pas encore atteint les parties immergées, le doute n'était plus possible. Harman se trouvait dans une salle ne présentant que 10 degrés d'assiette, mais sous l'effet de l'impact avec le fond de l'océan, avant la création de la brèche, cette zone ne faisait que 60 mètres de profondeur, une demi-douzaine de cylindres étaient tombés de leur râtelier. Harman n'aurait pas besoin de son arme. Il n'y avait plus rien de vivant dans les parages. Il fixa le pistolet à la plaque de velcro de sa hanche droite, le coinçant en repliant sur lui un carré de thermopeau, comme pour imiter l'un de ces holsters dont il avait découvert l'existence grâce au cabinet de cristal. Il plaqua sa main droite sur l'un des cylindres, se demandant si sa fonction recherche serait opératoire en dépit de la couche de thermopeau. La réponse était oui. Harman se trouvait dans la chambre des torpilles d'un sous-marin lanceur d'engins de classe Mahomet. L'IA du système de guidage de cette torpille, un mot et un concept qui lui étaient totalement inconnus avant cet instant, était morte depuis plus de 2000 ans, mais la mémoire résiduelle de ses micro-circuits était suffisamment intacte pour lui apprendre que sa main était posée sur une tête nucléaire fixée à une torpille à grande vitesse d'une puissance de 17 tonnes, équipée d'un dispositif d'autocavitation et d'un système de guidage. Cette tête nucléaire, encore un concept qui lui était nouveau, était une simple bombe à fusion d'une puissance de 475 kilotonnes, ce qui signifiait que son explosion équivaudrait à celle de 475 000 tonnes de TNT. La chaleur que dégagerait cette sphère nacrée atteindrait plusieurs dizaines de millions de degrés en l'espace d'un millionième de seconde. Harman avait l'impression de sentir les neutrons et les rayons gamma tapis en son sein, tels d'invisibles serpents venimeux, prêts à jaillir tous azimuts à la vitesse de la lumière pour tuer et empoisonner tous les tissus humains qu'ils trouveraient sur leur chemin, les déchirant ainsi que des balles s'enfonçant dans du beurre. Il releva vivement sa main et la frotta contre sa cuisse, comme si elle était souillée. Le sous-marin tout entier était un instrument de mort. Il lui avait suffi d'effleurer l'IA de guidage de la tête nucléaire pour comprendre que les torpilles n'étaient que des éléments accessoires de la mission confiée à l'équipage. Pour comprendre la nature de celle-ci, il devrait sortir de la chambre des torpilles, s'engager sur le pont, traverser le carré et le mess, monter au niveau supérieur, descendre une coursive longeant le poste sonar et la salle de communication intégrée, puis monter d'un niveau supplémentaire pour aboutir au poste de commandement central. Mais tout ce qui se trouvait au-delà de la chambre des torpilles était immergé. Grâce au faisceau lumineux de ses projecteurs, il distinguait nettement la paroi nord de la brèche à 5 mètres de lui. Le sous-marin englouti avait reposé des siècles durant à 60 mètres de profondeur, avant que les créateurs de la brèche vident ses compartiments de toute trace d'eau, et rien ne subsistait des myriades d'organismes marins qui avaient dû prospérer ici pendant des centaines d'années, même pas une coque de bernacle. Et on ne voyait non plus aucun signe d'ossement humain. Le champ de force qui retenait l'Atlantique ne tranchait pas le métal de la coque et des cloisons, du moins au sens physique du terme. Harman avait vu sur le plafond ininterrompu au-dessus de sa tête. Mais il imaginait sans peine l'ovale d'océan à l'intérieur du submersible. La paroi de la brèche retenait la mer de toutes parts, mais derrière cette paroi, Harman savait quelle pression prévalait à 60 mètres de profondeur, et les ténèbres régnant sur ce domaine lui étaient déjà apparentes, car les rayons lumineux butaient sur un mur d'une noirceur quasi absolue. Une vague de terreur glaçante déferla soudain sur lui. Il dut se cramponner à la détestable torpille afin de ne pas s'effondrer sur les plaques rouillées du pont. Pour se purifier du poison infusé dans son corps et son esprit, il aurait dû foncer à toutes jambes vers l'air libre et la lumière, arracher son masque osmotique et vomir tout ce qu'il savait. Ce qu'il tenait dans sa main n'était qu'une vulgaire torpille, conçue pour couler des navires, au mieux pour endommager un port, mais sa puissance thermonucléaire était le triple de celle qui avait anéanti Hiroshima, encore un terme qu'il venait tout juste de découvrir, ce qui la rendait en mesure de détruire tout ce qui se trouvait alentour dans un rayon de 10 kilomètres. Harman, qui était relativement doué pour estimer les distances, un talent de peu d'utilité en temps ordinaire, visualisa un cercle de 10 kilomètres de rayon superposé à Paris-Cratère, puis un autre avec Ardis en son centre. Dans ce dernier lieu, non seulement l'explosion volatiliserait en une microseconde le château et ses dépendances, mais elle détruirait en outre le mur d'enceinte sur tout son périmètre, et son souffle balayerait le pavillon Fax une seconde plus tard, vaporisant la rivière qui coulait au pied des collines et incinérant les forêts environnantes, telle une sphère ravageuse en expansion rapide dont les effets se feraient sentir jusqu'au rocher des affamés, où Ada et les autres s'étaient réfugiés, ainsi que le lui avait montré le Turin. Harman activa ses fonctions biofeedback et vit aussitôt confirmer ses craintes. La chambre des torpilles était baignée de radiations résiduelles. Les têtes nucléaires endommagées présentaient des fuites vieilles de plusieurs siècles, qui avaient irradié tous les compartiments avant du sous-marin. Sauf que, à en croire ses capteurs, les taux étaient encore plus élevés à l'arrière, dans la direction qu'il devait prendre s'il voulait en apprendre davantage sur cet instrument de mort. Peut-être que le réacteur à fusion qui propulsait cet obscène navire fuyait lui aussi depuis des siècles. C'était dans un enfer radioactif qu'il allait s'engager. Harman en savait juste assez sur ses fonctions biométriques pour se rappeler qu'il pouvait interroger les moniteurs. Il leur posa la question la plus simple qui fut « La thermopompe me fournit-elle une protection adéquate contre cette radioactivité ?» La réponse qui lui parvint était sans équivoque. Non. Aller plus loin aurait été une folie. Et il n'avait pas le courage de franchir ce mur d'eau noire cachant un maelstrom de radiation pour ensuite traverser la partie immergée de la chambre des torpilles, s'engager dans les ténèbres glacées du carré et du mess, où les compteurs gégères d'antan auraient pété leur cadran, monter au niveau supérieur où l'attendait la coursive longeant le poste sonar et la salle de communication intégrée, puis gagner le dernier niveau, celui de la terreur et de l'anéantissement cellulaire, pour aboutir enfin au poste de commandement central. C'était de la folie pure de rester dans cette épave maléfique, sans parler de descendre dans son tréfonds. Cela signifiait la mort pour lui, pour son espèce et tous ses espoirs, pour la foi qu'Ada avait en son retour, pour son enfant à naître qui aurait tant besoin d'un père durant les épreuves qui s'annonçaient. La mort de tous les avenirs. Mais il fallait qu'il sache. Les résidus quantiques de l'IA de la tête nucléaire lui en avaient suffisamment dit pour qu'il se sente obligé de trouver la réponse à une question toute simple. Alors il alla de l'avant, en mettant un pied devant l'autre, totalement terrorisé. Il avait passé 3 jours et 3 nuits dans la brèche, mais c'était la première fois qu'il franchissait le champ de force. Celui-ci était semi-perméable, à l'instar des membranes dont il avait fait l'expérience sur l'île orbitale de Prospero, le terme semi-perméable signifiant, ainsi qu'il le savait à présent, que ce champ de force était réglé de façon à laisser passer poste humain et humain à l'ancienne. Mais il formait ici une solution de continuité entre l'air et la chaleur d'une part, et de l'autre, le froid, la pression et les ténèbres. Harman comptait sur la thermopompe pour le préserver des effets de la pression des profondeurs, et c'est ce qu'elle fit. Il se refusait à consulter les données relatives à sa nature et ses propriétés. Peu lui importait de savoir comment elle s'y prenait pour le protéger, tant qu'elle y parvenait de façon efficace. Ses projecteurs accrurent automatiquement leur intensité afin de percer les eaux troubles et denses. Les zones immergées du sous-marin étaient aussi grouillantes de vie que la chambre des torpilles était stérile dans sa partie exposée à l'air. Non seulement cette vie résistait aux radiations, mais en outre, elle semblait étonnamment florissante. Le moindre centimètre carré de métal disparaissait sous plusieurs couches de corail mutant, auxquelles s'ajoutait une foule d'organismes aquatiques de couleur verte, rose ou bleu-gris, dont les vrilles et les tentacules ondoyaient doucement sous les courants imperceptibles. Des crustacés s'enfuirent à l'approche des faisceaux lumineux, une anguille rouge sang émergea d'une écoutille pour se rétracter aussitôt, laissant flotter l'image rémanescente de ses crocs étincelants. Harman veilla à la contourner lorsqu'il emprunta l'écoutille en question. L'IA de la tête nucléaire lui avait fourni un diagramme du bâtiment, suffisamment précis pour lui permettre de gagner le poste de commandement, Mais l'échelle qui aurait dû le conduire aux messes et aux carrés brillait par son absence. Le submersible était composé en majorité d'alliages dont la durée de vie se comptait en millénaires, mais cette échelle, une passerelle lui souffla sa mémoire protéinique, avait été emportée par la rouille depuis belle lurette. Se cramponnant des deux mains aux créatures ondoyantes fixées à la cloison, en espérant qu'il n'allait pas mettre les doigts dans la gueule d'une anguille, Arman se hissa laborieusement dans une soupe turbide aux nuances de vert. Quantité de débris et de particules se collaient à sa thermopeau, et il devait régulièrement nettoyer ses lunettes et son masque osmotique. Il était au bord de l'hyperventilation lorsqu'il parvint au niveau supérieur. L'expérience lui avait appris que le masque continuerait à l'alimenter en oxygène, mais la pression qui s'exerçait sur le moindre centimètre carré de son épiderme le mettait mal à l'aise. Il n'avait pas besoin d'accéder à sa mémoire pour savoir que la thermopeau le protégerait également du froid et de la pression. C'était grâce à une tenue de ce type qu'il avait survécu au vide spatial. Mais comme l'espace était propre comparé à ce milieu. Je me demande si la vase qui macule mes lunettes est composée de molécules provenant de l'équipage de ce sous-marin. Il chassa de son esprit toutes les idées de ce type. Elles étaient ridicules en plus d'être macabres. Si l'équipage avait coulé avec le bâtiment, il n'avait fallu que quelques années pour que l'appétit des créatures marines réduise les hommes à l'état de squelettes, quelques décennies pour que les disquelettes aient fini de se décomposer. Mais quand même... Arman se concentra sur la course d'obstacles qui l'attendait. Seuls les diagrammes pêchés dans la mémoire de l'IA permettaient de dire que cette section avait jadis abrité un dortoir. Elle ressemblait désormais à une crypte tombée en ruine, avec ses amoncellements de couchettes renversées, ses étagères recouvertes d'un tapis de lichen grisâtre, une crypte où crabes mutants et anguilles farouches se seraient substitués aux cadavres pourrissants des Montaigu ou des Capulet. Il faut vraiment que j'explore les œuvres de ce Shakespeare. Quantité de données présentes dans mes mémoires sont liées à ses pensées et à ses écrits. Arman franchit une nouvelle écoutille, écartant de son passage des stalactites végétales, pénétrant dans ce qui ressemblait à un réfectoire. En apercevant une longue table, il repensa sans savoir pourquoi à celle de Caliban, qu'ils avaient découverte 10 mois plus tôt sur l'île de Prospero. Peut-être parce que les polypes et les spongiaires qui se trouvaient sur celle-ci avaient acquis en mutant une belle couleur chair. Au fond de cet antre rose sang l'attendait une échelle verticale, rien à voir avec une passerelle, qui le conduirait à la salle de communication intégrée qu'il devrait traverser avant d'accéder au poste de commandement central. Il n'y avait pas d'échelle. Devant lui s'ouvrait un étroit tube vertical envahi de végétation vert et bleu, et il repensa à la description que Daemon avait faite de Paris-Cratère, un nid de glace bleue. Mais cette toile-ci avait été tissée par une vie terrestre, quoique mutante, et Arman entreprit de la déchirer, arrachant à pleine poignée des siècles et des siècles de conquêtes biologiques, regrettant amèrement de ne pas avoir emporté une hache. L'eau devint tellement trouble autour de lui qu'il cessa de distinguer ses propres mains. Une créature sinueuse et tout en longueur, une anguille, un petit serpent de mer, glissa le long de son corps avant de s'enfuir vers les profondeurs. Il continua de s'acharner sur les paquets visqueux de vie radioactive, avançant à tâtons dans l'obscurité turbide. Il avait l'impression de vivre une seconde naissance, d'émerger dans un monde plus horrible que le précédent. Sa progression était si difficile qu'il lui fallut un moment pour se rendre compte qu'il avait fini par se frayer un chemin jusqu'au poste de commandement. Entouré de tentures d'algues, au sein d'une nuée de particules si dense que les faisceaux de ses projecteurs la transformaient en firmament éblouissant, il s'effondra sur la vase, trop épuisé pour faire un geste. Puis il se rappela que chaque seconde passée dans cette épave mettait sa vie en danger. Se redressa péniblement et, chassant les lambeaux végétaux qui s'étaient amassés sur ses épaules, reprit sa route vers la poupe. La salle de communication était toujours en activité. Arman en resta figé de saisissement. Des fonctions de son corps encore non cataloguées lui apprirent que les machines dissimulées sous le tapis de spongière gris cherchaient à communiquer. Pas avec lui. Les IA gérant ses appareils n'étaient pas au fait de sa présence. Leur capacité à interagir avec des êtres humains s'était étiolée en même temps que le cœur quantique instable de leurs ordinateurs. Mais elles voulaient communiquer avec quelqu'un, plus précisément recevoir les ordres de quelqu'un ou de quelque chose. Sachant que ce n'était pas ici qu'il trouverait ce qu'il cherchait, Harman passa sans s'arrêter devant les modules sonar et GPS. Il aurait pu trouver dans sa mémoire l'origine de ce sigle, mais il avait plus urgent à faire pour le moment. S'il avait pris le temps de réfléchir à la notion de sous-marin, ce qu'il n'avait jamais eu l'occasion de faire, Harman aurait probablement déduit que ce type de navire, l'IA de la tête nucléaire préférait ce terme à celui de bateau, était par nécessité composé de plusieurs compartiments de petite taille à l'étanchéité garantie par des portes conçues à cet effet. Tel n'était pas le cas ici. Les salles étaient d'une taille démesurée et les fermetures étanches brillaient par leur absence. En cas de voie d'eau, un risque qui n'avait visiblement rien d'hypothétique, les passagers de ce navire n'auraient pas péri à l'issue d'une lente noyade en luttant pour préserver chaque centimètre cube d'air respirable, mais lors d'une implosion brutale qui aurait eu raison d'eux en quelques secondes. Comme si les humains occupant cet engin de destruction avaient préféré mourir vite, mais garder leurs aises. Harman cessa de nager et se laissa couler vers le sol lorsqu'il constata qu'il avait atteint le centre du poste de commandement. Ici, le métal l'emportait sur les plantes aquatiques. Grâce au diagramme que lui avait transmis l'IA, il identifia le lance-torpille et le poste de contrôle de l'armement. Des colonnes de métal qui devaient projeter des myriades de consoles virtuelles en situation de combat. Harman explora l'espace disponible, effleurant le métal et le plastique de sa paume, recevant les informations que lui transmettaient les cerveaux quantiques enchâssés dans ces matériaux. Le capitaine ne disposait d'aucun siège, simple chaise ou noble trône. Il se tenait debout, devant la table de navigation, en face de la console principale, virtuelle dans des conditions idéales, projetée en cas d'urgence à partir d'un écran à cristaux liquides, vers laquelle convergeaient tous les systèmes et toutes les fonctions du navire. Harman tendit sa main gantée à travers la bouillasse verte et imagina une image sonar apparaissant ici. L'écran tactique devait être à sa gauche, là. Quelques mètres derrière lui, ces spongières gris à moitié liquéfiées devaient être les tabourets où prenaient place les officiers et hommes d'équipage responsables du ballastage, du pilotage, du radar, du sonar, du GPS, des drones, de la préparation et du lancement des torpilles, du contrôle de la gîte et de l'assiette. Harman se ressaisit. Il n'avait pas besoin d'entrer dans les détails. Ce qu'il lui fallait savoir, c'était ici. Un monolithe de métal noir derrière le poste du capitaine. Vierge de bernacle, de coraux, de mollusques et de vases. Si noir que les faisceaux lumineux d'Harman n'y avaient accroché aucun reflet lors de leur précédent balayage. C'était l'IA principale du navire, conçue pour interagir de 100 façons différentes avec le capitaine et l'équipage. Un ordinateur quantique, même datant de cette antique époque, même mort depuis 2 millénaires, était plus vivant à 1% de sa capacité que la plupart des êtres vivants occupant cette planète. Un esprit quantique, ça a la vie dure. Harman savait qu'il ne possédait pas les codes d'accès qui lui auraient ouvert cette IA. Sans parler des langages dans lesquels les 10 codes étaient sans doute rédigés, mais il savait aussi que cela n'avait aucune importance. Les fonctions que la nanogénétique avait développées pour les programmer dans son ADN étaient postérieures à la mort de cette machine. Celle-ci n'aurait pas de secret pour lui. Cette idée le terrifiait. Harman aurait voulu fuir cette crypte engloutie, fuir les radiations qui lui bombardaient la peau, le cerveau, les couilles, les tripes et les yeux pendant qu'il restait là, les bras ballants, indécis. Mais il fallait qu'il sache. Il posa la paume de sa main sur le monolithe de métal noir. Le sous-marin s'appelait l'épée d'Allah. Il avait quitté son port d'attache le... Harman sauta les détails relatifs aux dates et aux raisons de cette guerre antique. Il se contenta de vérifier que celle-ci était postérieure à l'épidémie du Rubicon, qu'elle datait des années de démence, plus précisément d'une période où le califat global était sur le point de disparaître, suivant dans l'anéantissement les démocraties de l'Ouest et de l'Europe, la nouvelle Union européenne n'étant plus qu'un agrégat d'États vassaux du Cana en pleine expansion. Rien de tout cela n'avait d'importance. L'important, c'était ce que ce sous-marin portait dans son ventre et qui était aussi réel que le fœtus croissant dans le ventre de son épouse Ada. Harman prit le temps d'écouter en accéléré les testaments dictés par les 26 membres d'équipage de l'épée d'Allah. le lanceur d'engins de classe Mahomet était tellement automatisé qu'il pouvait se contenter de 8 sous-mariniers pour accomplir sa mission, mais l'afflux de volontaires était tel que 26 élus avaient été sélectionnés pour monter à son bord. C'étaient tous des hommes, tous des dévots. Tous avaient recommandé leur âme à Allah à l'approche de la fin. Arman comprit qu'il était cerné de toutes parts par une armée de sous-marins, d'avions, de navettes et de navires du Cana. Il savait qu'il ne disposait que de quelques minutes de sursis, soit à peine plus que la planète tout entière. Le capitaine avait donné l'ordre de lancement. L'IA principale l'avait confirmé et relayé. Pourquoi les missiles n'avaient-ils pas été lancés? Arman fouilla l'IA jusque dans ses tripes sans parvenir à comprendre pourquoi les missiles étaient restés dans leur niche. L'officier humain avait émis l'ordre. Les quatre clés distinctes avaient été tournées, les coordonnées et les commandes dédiées avaient été confirmées et relayées par l'IA. Les missiles avaient été contrôlés dans la séquence appropriée, tous les boutons, réels et virtuels, avaient été poussés. Toutes les écoutilles avaient été ouvertes par les systèmes hydrauliques. Seul un dôme en fibre de verre bleu séparait désormais les missiles de l'océan, chacun des tubes de lancement ayant été pressurisé à l'azote pour empêcher l'eau de s'engouffrer dans les œuvres vives avant l'instant crucial. Les 48 missiles auraient dû jaillir de leur niche, propulsés par les générateurs gazeux après ignition au moyen d'une décharge électrique de 2500 volts. L'azote aurait alors produit en moins d'une seconde une pression supérieure à 6000 kg par centimètre carré, propulsant chaque missile dans sa bulle d'azote jusqu'à ce qu'il jaillisse des eaux tel un bouchon, le carburant solide prenant le relais une fois le projectile parvenu à l'air libre. Ce protocole de lancement incluait des phases à double, voire à triple redondance. Les missiles auraient dû frapper leur cible, tous sans exception. Tous les indicateurs de l'IA étaient au rouge. Pour chacun des 48 missiles que l'épée d'Allah portait dans son ventre gravide, la séquence s'était déroulée normalement, de lancement engagé à lancement effectué. Sauf que les missiles étaient toujours dans leur rampe. L'IA morte et à moitié décomposée en avait parfaitement conscience, et Arman perçut par l'entremise de sa paume un sentiment rappelant la honte et le chagrin. Son cœur battait si fort, son souffle était si saccadé que le masque osmotique diminua son apport en oxygène afin de lui éviter l'hyperventilation. 48 missiles, 48 plateformes d'annihilation. Car chaque ogive multiple abritait 16 charges, ce qui faisait en tout 768 ogives armées et prêtes à détonner. Les cibles, 768 villes, monuments et centres de population, aux ressources déjà amoindries par le virus Rubicon. Mais il ne s'agissait pas d'ogives nucléaires ordinaires comme emportaient les torpilles de l'épée d'Allah. Chacun des 768 projectiles que transportait le sous-marin abritait un trou noir à peine confiné. L'arme suprême de l'espèce humaine en général et du califat global en particulier. Son détergent suprême, se dit Arman en étouffant un rire qui menaçait de virer aux sanglots. Ces trous noirs étaient fort petits. Comme l'avait expliqué l'un des membres de l'équipage dans son fervent message d'adieu, ils sont aussi gros que le ballon de football avec lequel je jouais enfant dans les ruines de Karachi. Mais lorsqu'ils sortiraient de leur sphère de confinement pour frapper leur cible, les conséquences seraient infiniment plus désastreuses que celles d'une simple frappe thermonucléaire. Chaque trou noir plongerait dans la Terre, ouvrant au centre de sa cible un trou gros comme un ballon de foot, mais la seconde d'après, il y aurait une implosion de plasma 1000 fois plus ravageuse qu'une explosion thermonucléaire. En poursuivant sa descente, le trou noir transformerait et la croûte terrestre et le magma en un nuage de vapeur et de plasma qui absorberait en son sein les hommes, les bâtiments, les véhicules, les arbres, bref, toutes les molécules de sa cible et de la région environnante. Le trou noir qui avait ouvert le cratère de 1500 mètres de diamètre au centre de Paris faisait moins d'un millimètre de diamètre et présentait une forte instabilité. Il s'était dévoré lui-même avant d'atteindre le noyau de la planète. Comme l'avait récemment appris Arman, cette antique catastrophe avait fait 11 millions de morts. Ces trous noirs-là n'allaient pas se dévorer eux-mêmes. Ils allaient rebondir sous la croûte terrestre, émergeant périodiquement à l'air libre pour replonger dans les entrailles de la planète. 768 sphères de destruction, nimbées d'une aura de plasma et de radiation ionisante, effectuant une navette sans fin à travers la croûte terrestre, le manteau, le magma et le noyau, pendant des mois, pendant des années, jusqu'à ce qu'ils achèvent leur course au centre de cette bonne vieille terre et entreprennent de dévorer son tissu constituant. Les 26 membres d'équipage approuvaient à l'unanimité leur mission sacrée. Ils se retrouveraient tous au paradis. Que Dieu soit loué. Redoutant de vomir à l'intérieur de son masque osmotique, Harman s'obligea à garder la main plaquée sur le monolithe noir pendant une interminable minute. L'IA avait sûrement reçu des instructions au cas où il aurait été nécessaire de désarmer ces trous noirs activés. Leur champ de confinement était fort puissant et conçu pour perdurer pendant des siècles. Ils avaient tenu le coup pendant plus de 2500 ans. Mais ils étaient à présent très instables. Dès que l'un des trous noirs s'échapperait, les autres le suivraient. Peu importe qu'ils entament leur périple apocalyptique à partir de l'une des cibles prévues ou de ce coin de la brèche atlantique, le résultat serait le même. Aucune procédure de désarmement n'était archivée dans l'IA, ni dans aucun autre système à bord de l'Epedalla. Ces singularités étaient irréductibles, et ce depuis près de 250 des 520 standards qui servaient d'unité de temps à Harman. Et dans ce monde où la technologie venait tout juste d'arriver au niveau de l'arbalète, il n'existait aucun moyen de recalibrer leur champ de confinement. Harman retira sa main. Plus tard, il ne devait jamais se rappeler comment il était sorti des sections submergées du bâtiment, ni comment il avait traversé en titubant la chambre des torpilles, pour ressortir par la brèche de la coque et se retrouver sur cette bande de sable boueux qu'était la brèche atlantique. Il avait retiré sa cagoule et son masque osmotique, s'était mis à quatre pattes et avait vomi un long moment. Longtemps après qu'il eut régurgité le maigre contenu de son estomac, les barres nutritives laissaient très peu de résidus, il avait continué de cracher sa bile. Comme il était trop faible pour seulement marcher à quatre pattes, il s'éloigna de ses vomissures en rampant, s'effondra et roula sur le dos, les yeux tournés vers la fine bande de ciel bleu dans les hauteurs. Les anneaux étaient tout juste visibles, et il ne cessait de tourner, comme les aiguilles évanescentes d'une obscène pendule comptant les heures, les jours, les mois, ou les années le séparant de l'instant où le premier trou noir échapperait à sa sphère de confinement. Harman savait qu'il devait s'éloigner de cette épave radioactive, en rampant s'il le fallait. Mais le cœur n'y était plus. En fin de compte, à l'issue de plusieurs heures au bas-mot, la bande de ciel visible s'assombrissait, il activa la fonction qui interrogeait ses biomoniteurs. Comme il s'en était douté, il avait reçu une dose létale. Le vertige qu'il éprouvait ne ferait qu'empirer. Il ne tarderait pas à vomir de nouveau. Le sang s'amassait déjà sous sa peau. Dans quelques heures, le processus était déjà enclenché, ses viscères perdraient leurs cellules par millions. Viendraient alors les crises de diarrhée, d'abord par intermittence, puis de façon continue, son corps se débarrassant de ses tripes en les déféquant. Puis ce seraient les hémorragies internes, conséquence de la dissolution de ses parois cellulaires, de l'effondrement total de son organisme. Il vivrait assez longtemps pour observer et ressentir ce processus. Dans moins d'une journée, sa faiblesse serait telle qu'il ne pourrait plus bouger d'un pouce entre deux crises de diarrhée ou de vomissement. Il se retrouverait paralysé dans la brèche, le corps secoué par moments de spasmes involontaires. Et il ne pourrait même plus contempler l'azur ni le firmament. Les biomoniteurs signalaient déjà la progression sur son cristallin d'une cataracte due à la radioactivité. Il ne put s'empêcher de sourire. Pas étonnant que Prospero et Moira lui aient donné si peu de barres nutritives. Il savait qu'il n'aurait même pas le temps de les finir. Pourquoi ? Pourquoi avoir fait de moi le Prométhée de l'espèce humaine avec toutes ses fonctions, toutes ses connaissances, toutes ses promesses à transmettre à Ada et à tous les miens, pour me laisser crever comme ça, tout seul, ici? Harman était suffisamment conscient et sain d'esprit pour savoir que des milliards d'êtres humains, pas plus élus que lui, avaient déjà lancé un tel cri à la face des cieux muets durant les heures, les minutes qui avaient précédé leur mort. Il était en outre suffisamment avisé pour répondre à sa propre question. Prométhée avait volé le feu aux dieux. Adam et Ève avaient mangé le fruit de l'arbre de la connaissance. Tous les mythes de la création étaient des variantes de la même histoire, révélaient la même terrible vérité. Si tu dérobes le feu et la connaissance aux dieux, tu deviens supérieur aux animaux dont tu es issu, mais tu restes de loin inférieur à n'importe quel dieu. En cet instant, Harman aurait tout donné pour se débarrasser des 26 testaments vibrants de foi rédigés par les démons qui s'étaient embarqués sur les pédales là. Ces messages d'adieu passionnés témoignaient en effet du fardeau qu'il avait failli imposer à Ada, à Daeman, à Anna, à l'ensemble de ses amis, à son espèce tout entière. Il comprenait maintenant que tous les éléments de l'année écoulée, l'épopée du Turin, cette guerre de Troie qui n'était autre qu'un cadeau empoisonné de Prospero, agissant avec la complicité d'Odysseus et de sa vie, leurs diverses quêtes insensées, la sinistre mascarade sur l'île de Prospero, dans l'anneau E, sa fuite, les progrès des habitants d'Ardis qui avaient appris à se fabriquer des armes, à concevoir l'ébauche d'une société, à découvrir la politique et même à expérimenter avec les rudiments d'une religion. Tout cela les avait fait redevenir humains. L'espèce humaine était de retour sur Terre après plus de 1400 ans de coma et d'indifférence. Arman le comprenait à présent, tout comme il comprenait que leur enfant aurait été pleinement humain, sans doute le premier être humain digne de ce nom à voir le jour après tous ces siècles de stase confortable et inhumaine qu'ils avaient vécu en croyant à ces faux dieux qu'étaient les post-humains. Un être humain devant affronter en permanence le danger et la mortalité, contraint de tisser des liens avec ses semblables rien que pour survivre au Voynix, au Caliban, à Caliban lui-même, à ce monstre de Sétébos. Il aurait eu une vie excitante, une vie terrifiante, une vie réelle. Pour aboutir en fin de compte, peut-être, peut-être, à une nouvelle épée d'Alla. Arman roula sur son flanc et vomit à nouveau. Cette fois-ci, ses vomissures se réduisaient à du sang et des muqueuses.
Ça va plus vite que je ne l'aurais cru.
Les yeux fermés pour mieux supporter la douleur, toutes les douleurs, mais surtout celles qui découlaient de ce nouveau savoir, il porta la main à sa hanche droite. Le pistolet y était toujours fixé. Il l'extirpa du repli de Thermopot, le détacha de la plaque de velcro, l'arma de la main gauche ainsi que Moira le lui avait montré, une balle dans la chambre, débloqua le cran de sûreté et porta le canon à sa tempe.